Vidocq, mémoire, chapitre 42. Le bruit de notre arrivée se répandit en un instant. Les habitants accoururent pour voir les assassins du boucher. Et j'étais aussi, pour eux, un objet de curiosité. Dans cette occasion, je ne fus pas fâché d'apprendre ce que l'on pensait de moi à 6 lieues de la capitale. Alors je me faufilai dans la foule assemblée devant la porte de la prison, et de là je n'eus qu'à prêter l'oreille pour entendre les propos les plus singuliers. « C'est lui, c'est lui !» répétèrent les spectateurs en se haussant sur la pointe des pieds. Chaque fois que le guichet s'ouvrait pour laisser entrer ou sortir un de mes agents. « Que vois-tu » disait l'un. « C'est ce petit boricot qui a pas 6 pieds. Ouais, voilà, avorton comme ça, j'en aurais 50 comme lui, à mes trousses. Un avorton, mais il est toujours assez grand pour te foucher la tournée. D'abord, il tire la savate comme un ange. Et puis, il a une manière de vous poincer la jambe. Mais tais-toi donc, est-ce qu'on connaît pas les coureurs aussi bien que toi? Oui, c'est un grand mince, non, disait un autre. A-t-il l'air méchant avec ses cheveux roux? Bon, il est comme un échalas. Il m'est avis qu'un matin, dans la bouche, je poirais en deux. Toi? Oui, moi. Oh, tu crois qu'il se serait employé? Pas si bête. Il viendrait soi-disant pour te parler amicalement, puis au moment où tu t'y attendrais le moins, ce serait un coup de poing qui t'arriverait dans le brochet. Oh, le creux de l'estomac. Ou suivant, qui trouverait si belle, trouverait sa belle, il te saluerait d'une mûre d'un coup de poing sur le nez, que tu en verrais 36 chandelles. « Monsieur a raison, observait en me regardant un gros bourgeois à lunettes, qui était mon plus proche voisin. C'est un être bien extraordinaire que ce Vidocq. On prétend que quand il va arrêter quelqu'un, il a un coup à lui qui le rend tout de suite le maître de ses hommes. Je me suis laissé dire, c'était un charretier qui prenait la parole, qu'il a toujours aux pieds des souliers avec des caboches, des gros clous. Et qu'en vous donnant une poignée de main, il vous lève sur le dos de la jambe une tartine de longueur. « Mais faites donc attention, vous marchez, gros butor !» s'écriait une jeune fille dont le charretier venait maladroitement d'écraser les hors-corps. Ça vous fait jouir, la belle enfant, ripostait le rustre. Ce n'est rien, vous en verrez bien d'autres avant que de mourir. Si Vidocq, avec ta talent de sa bonté, vous écrasait le gros arpion, gros orteil. Vraiment, mais qu'il y vienne donc. Il serait gêné, c'est encore un cadet. À ce moment-là, je pris part à la conversation. « Mademoiselle, dis-je au charretier, a trop de jolis yeux pour que Vidocq, tant méchant soit-il, veuille lui faire du mal. Oh, n'ignore pas qu'il n'est pas si rude avec les femmes. D'abord, c'est un gaillard qu'on dit qu'il lui en faut. Oui, il lui en faut, et qu'il est fameusement porté là-dessus. Mais c'est pas tout ça. Je voulais vous dire que quand on écrase le gros arpion à la partie qui est, tout fort soit-il, il n'y a pas de milieu. Il faut qu'il descende, et si on ne le travaille pas, il reste sur place. Il se fit alors un brouhaha. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Un bol chapeau. Hé, l'homme à la perruque. C'est les assassins? Le voilà, le voilà. Et qui donc? Ben, le poussez donc pas tant. Polisson, voulez-vous finir avec vos mains? Donnez-lui un soufflet. Comme les femmes sont imprudentes de se risquer dans un état pareil. Aïe, aïe! Montez sur mon épaule. Et là-bas, vous n'êtes pas de verre. Sont-ils fous de faire tant de bruit? C'est rien, c'est un exemple. Y en a-t-il de ces mouchards? Des mouchoirs? Oh, y en a que quatre. Quand ces cris aïe aïe cessèrent, le flux et le reflux de la multitude m'avaient transporté au milieu d'un groupe nouveau où une douzaine de gobe-mouches s'entretenaient aussi de moi. Premier gobe-bouche, celui-là avait des cheveux blancs. Oui, monsieur, il a été condamné pour 101 ans de galère, un relevé de mort. Second gobe-mouche, 101 ans? Mais c'est plus d'un siècle. Une vieille femme, ah, grand Dieu, qu'est-ce que vous me faites l'honneur de me dire? 101 ans, comme dit cet autre, c'est pas un jour. Troisième gobe-mouche, oh non, non, c'est pas un jour, c'est un beau bail. Quatrième gobe-mouche, ah, il avait donc assassiné. Cinquième gobe-mouche, quoi, vous ne savez pas ça? C'est un scélérat couvert de crimes. Il a tout fait. 20 fois, il a mérité la guillotine. Mais comme c'est un adroit coquin, on lui a fait grâce de la vie. La vieille femme, c'est-il vrai qu'il a été fouetté, marqué? Premier gobe-mouche, oh, certainement, madame, avec un fer à chaud sur les deux épaules. Je vous réponds que si on les mettait à nu, on y trouverait la fleur de lys. Autre gobe-mouche. Son numéro d'ordre ne me revient pas. Je me rappelle seulement qu'il était vêtu de noir et coiffé à l'oiseau royal. C'était, à ce que je présume, un des marguilliers de la paroisse. La fleur de lys, oh, c'est bien mieux que cela, puisqu'il est assujetti à porter un anneau à la jambe. C'est un fait que je tiens du commissaire. Moi, intervenant. Mais laissez donc avec votre anneau. Est-ce qu'on ne le verrait pas? Le gobe-mouche. Noir. Sévèrement. Sèchement. Non, monsieur. On ne le verrait pas. D'abord, ne vous mettez pas là dans la tête que ce soit un anneau de fer du poids de 4 ou 5 livres. C'est un anneau d'or, très léger et presque imperceptible. Ah, pardieu! S'il s'avisait comme moi de parler des culottes courtes, de porter les culottes courtes, ça sauterait aux yeux, mais le pantalon cache tout. Le pantalon, jolie mode! Ça vous vient de la Révolution. C'est comme le Titus. On ne distingue plus un honnête homme d'un galérien. Je vous le demande, messieurs, si Vidocq était parmi nous, seriez-vous pas bien aise de vous trouver dans la compagnie d'un tel misérable? Qu'en pensez-vous, chevalier? Un chevalier de Saint-Louis. Oh, pour mon compte, je n'en serais pas très flatté, et vous, monsieur de la Potinière? Monsieur de la Potinière. Oh, dans le fait, ce n'est pas si grand homme. Un si grand honneur, un forçat, et qui puisait un espion de police. Si encore, il n'arrêtait que les brigands de l'espèce de ceux que l'on vient d'amener aujourd'hui. Ce serait pas béni. Mais savez-vous à quelles conditions on l'a tiré du bagne? Pour obtenir sa liberté, il s'est engagé à livrer 100 individus par mois. Il n'y a pas à dire, coupable ou non, il faut qu'il les trouve. Autrement, il serait bien sûr d'être reconduit où on l'a pris. Par exemple, s'il dépasse le nombre, il a une prime. Et c'est ainsi que cela se passe en Angleterre, Sir Walson. Sir Walson. Non, non, le gouvernement de la Grande-Bretagne n'est pas encore admis de pareille commutation de peine. Je ne connais pas votre monsieur Vidocq, mais si c'est un brigand, il est beaucoup moins sans doute que ceux qui tiennent suspendu sur sa tête l'épée qui tombe du moment qu'il y a possibilité pour lui de remplir un marché abominable. O'Meara, qui n'est pas plus que moi partisan de mon ministère, notre ministère, vous attestera qu'il n'est pas encore arrivé à ce point. Vous vous taisez, docteur. Parlez donc. Le docteur O'Meara, oh, il ne lui aurait plus manqué que d'avoir choisi parmi les héros de Tyburn ou de Monterey Bay, les sachants qui se prennent de la sûreté de Londres. Quand les voleurs font la chasse aux voleurs, ce n'est jamais certain qu'ils ne finiront pas par s'entendre, et alors, que devient la chasse? Le chevalier de Saint-Louis. C'est juste, il est inconcevable que dans tous les temps la police n'a jamais employé que des hommes tarés. Il y a tant d'honnêtes gens. Moi. Monsieur accepterait la place de Vidocq? Le chevalier. Non, monsieur, Dieu m'en garde. Moi. Eh bien alors, ne demandez pas l'impossible. Sir Wilson. L'impossible, jusqu'à ce que la police de France, qui n'a qu'une institution ténébreuse, une machination perpétuelle, ait cessé d'être l'espionnage et soit devenue la force visible pour le maintien de l'ordre public et de la sûreté de tous. Une Anglaise, au milieu de trois ou quatre officiers en demi-solde qui paraissent lui faire leur cours. Peut-être est-ce Lady Olson. Le général entend toutes ces choses à merveille. Un des officiers. Ah, voici le général Belfort avec sa famille Picard. Lady Olson. Ah, bonjour, général. Je dois vous faire mes compliments de condoléances, car on m'a conté l'événement de votre Sabatière. Chez nous, il y a un vieux proverbe qui dit qu'il vaut mieux s'éveiller sous la table de la taverne que de s'exposer à dormir dans le fossé. Le général, avec aigreur. Oh, c'est une leçon qui aurait pu profiter au boucher. Lady Owenson. Et à vous, général. Mais à propos. Que ne vous adressez-vous à Vidocq pour retrouver votre tabatière? Général, un Vidocq, un voleur, un chauffeur, un gredin. Oh, si je savais respirer le même air que lui, me pendrais tout de suite. Que je m'adresse à Vidocq. Le capitaine Picard. Et pourquoi pas, s'il peut vous faire rendre l'objet? Le général. Ah, voilà comme vous êtes, vous! Avec un ton de supériorité. Mon ami Picard, on s'aperçoit que vous êtes un enfant de la balle. Merci, général. N'êtes-vous pas le fils d'un capitaine de maréchaussée? N'avez-vous pas dit 100 fois que votre père avait arrêté le fameux poulailler? Lady Owenson. Le fameux poulailler? Ah, oh, monsieur Picard, contez-nous donc ça, le fameux poulailler. Monsieur Picard, puisque vous le commandez, madame, cependant, c'est bien long, et puis, c'est une histoire que tout le monde connaît. Lady Owenson. Je vous en prie, monsieur Picard. Monsieur Picard. Oh, c'était un bien adroit voleur que Poulailler. Depuis Cartouche, on n'avait pas vu son pareil. J'en finirais pas si je voulais vous faire dire seulement le quart de ce que ma mère m'en a rapporté. La bonne femme a bientôt 80 ans. Elle se souvient de loin. Le général Beaufort. Au fait, avocat, pas de discrétion. Lady Owinson. Général, n'interrompez donc pas. Allons, monsieur Picard. Donc, bon, vous abrégez, la cour était à Fontainebleau. On y célébrait les jouissances à l'occasion du mariage. Mon père, qui s'était capitaine de maréchaussée, reçoit dans la nuit un express qui annonce qu'à la suite d'un bal, plusieurs individus déguisés en grands seigneurs ont disparu en emportant avec eux les parures de diamants de la plupart des dames qui figuraient dans les quadrilles. Il y en avait pour une somme considérable. Et cet enlèvement s'était effectué avec tant d'audace et de subtilité qu'il était tout naturel de l'attribuer à Poulailler. On l'avait vu à la tête d'une cavalcade de 10 hommes superbement montés prendre la route de Paris. Il était à présumer que c'étaient les voleurs et qu'ils passeraient à Essonne. Mon père s'y rendit sur le champ et il apprit que la cavalcade était descendue à l'auberge du Grand Cerf. C'est aujourd'hui la maison déserte qu'on appelle la ferme. Ils étaient tous couchés et leurs chevaux étaient à l'écurie. Mon père voulut d'abord s'emparer des chevaux. Il les trouva scellés, bridés et ferrés à rebours, si bien qu'ils semblaient aller dans l'endroit où ils venaient. Lady Owinson. Voyez un peu quel ruse! Alors, il les savait tous ces brigands? Monsieur Picard. Mon père fit couper les sous-entrières et aussitôt il monta à la chambre de Poulailler. Mais averti par un des siens qui faisait le guet. Celui-ci avait déjà levé le pied, et toute la bande s'était dispersée dans la campagne. Il n'y avait pas de temps à perdre pour se mettre à la poursuite. Mon père ne s'arrêta qu'à la cour de France, où on lui dit qu'on avait vu entrer un beau monsieur dans un cabaret. Il avait un habit tout couvert d'or et de belles plumes sur son chapeau. Pas de doute, c'était Poulailler. Mon père va voir droit au cabaret, et le beau monsieur y était. « Au nom du roi, je vous arrête !» lui dit mon père. « Ah, mon bon monsieur, ne m'arrêtez pas. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis qu'un pauvre diable. » qui menait à Paris un troupeau de dindons. J'ai rencontré sur mon chemin un seigneur qui me les a achetés, qui a trouvé troqué sa défroque contre la mienne. Je n'ai pas perdu au change, sans compter qu'il m'a bien payé ma marchandise, 15 beaux louis d'or, qu'il m'a donné. Si celui que vous cherchez, ne lui faites pas de mal, c'est un si brave homme. Il me dit comme ça qu'il était dégoûté de vivre avec les grands et qu'il voulait tenter la vie des petits. Si vous le voyez sur la route, on dirait, ma foi, Dieu, qu'il n'a fait que ça depuis qu'il est au monde. Il garde ses dindons, dame. Il faut voir. Il n'y a pas de danger qu'il s'écarte. Mon père n'eut pas plutôt reçu ce renseignement qu'il se mit à galoper après le nouveau marchand de dindons. Il l'eut atteint promptement. Poulailler, se voyant découvert, voulut lui prendre la fuite et mon père le gagna de vitesse. Alors le brigand lui tira 2 coups de pistolet, mais sans se déconcerter, Mon père sauta le cheval, saisit Poulailler à la gorge, et après l'avoir terrassé, il garrota, je vous réponds, que c'était un rude homme que ce Poulailler. Mais mon père l'était aussi, le général Beaufort. Eh bien, capitaine Picard, je ne savais donc pas tort de dire que vous êtes des enfants de la balle. Et moi, oh, général Beaufort. Général, je vous demande pardon, mais plus je vous considère, plus il me semble que j'ai l'honneur de vous connaître. Comment dites-vous, pas les gendarmes à Mons? Le général. Oui, mon ami, en 1793. Nous étions avec Dumouriez et le duc d'Orléans, actuel. Moi. Ah, c'est cela, général, j'étais sous vos ordres. Le général me tendant la main avec enthousiasme. Eh, venez donc, mon camarade, que je vous embrasse. Oh, je vous retiens à désigner. Monsieur, je vous présente un de mes anciens gendarmes. Il est taillé en force, celui-là, j'espère qu'il aurait bien arrêté Poulailler, n'est-ce pas, monsieur Picard? Et pendant que le général pressait mes mains dans les siennes, un gendarme m'ayant aperçu parmi les spectateurs vint à moi et me touchant légèrement l'épaule. « Monsieur Vidocq, me dit-il, le procureur du roi vous demande. » Soudain, tout autour de moi, je vis les visages s'allonger d'une étrange façon. « Quoi, c'est Vidocq ?» Et puis « C'est Vidocq, c'est Vidocq » répétait-on. Et les plus empressés donnaient force coup de coude pour se faire jour jusqu'à moi. On se montait les uns sur les autres pour me voir de plus près ou de plus loin. Toute cette masse de curieux s'imaginait vraisemblablement que je n'avais pas figure humaine. Les exclamations de surprise que je saisissais à la volée m'en donnèrent le preuve. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas oubliées. Tiens, il est blond. Ah, je le croyais brun. On le dit si mauvais. Lui a pourtant pas l'air de ce gros réjoui. Oh, fiez-vous donc à la mine. Telles étaient à peu près les observations que le public faisait en présence, prenant mon signalement. Il y avait une telle affluence que je n'arrivais même sans peine auprès du procureur du roi. Ce magistrat me chargea de conduire les prévenus devant le juge d'instruction. Courte, que j'emmenai le premier, parut intimidé quand il se vit en présence de plusieurs personnes. Je l'exhortai à renouveler ses aveux. Il le fit sans trop de difficulté pour tout ce qui était relatif à l'assassinat du boucher. Mais, interrogé au sujet du marchand de volailles, il rétracta ce qu'il m'avait dit. Il fut impossible de l'amener à déclarer qu'il avait d'autres complices que Raoul. Celui-ci, introduit dans le cabinet, me balança, pas à confirmer, tous les faits consignés dans le procès-verbal de l'interrogatoire qu'il avait subi la suite de son arrestation. Il raconta longuement et avec un imperturbable sang-froid tout ce qui s'était passé entre eux et le malheureux Fontaine jusqu'à l'instant où on l'avait frappé. L'homme, dit-il, n'était qu'étourdi par les deux coups de bâton. Lorsque je vis qu'il ne tombait pas, je m'approchai de lui comme pour le soutenir. J'avais à la main le couteau qui est là, sur la table. En même temps, il s'élance vers le bureau, saisit brusquement l'instrument de son crime, fait deux pas en arrière et, roulant les yeux dans lesquels la fureur étincelle, il prend une attitude menaçante. Or, ce mouvement auquel on ne s'était pas attendu glaça d'épouvante toute l'assistance. Le sous-préfet faillit se trouver mal. Moi-même, je n'étais pas sans quelque frayeur. Cependant, persuadé qu'il était prudent de n'attribuer ce mouvement de Raoul qu'à un bon motif, « Oh, monsieur, que craignez-vous » dis-je en souriant. « Raoul est incapable de commettre une lâcheté et de mésuser de la confiance qu'on lui en témoigne. Il a pris ce couteau que pour vous mettre à mesure de mieux juger le geste. « Merci, monsieur Jules, » me dit cet homme, charmé de l'explication, et en déposant tranquillement le couteau sur la table. Il ajouta, « J'ai voulu seulement vous montrer comment je m'en suis servi. » La confrontation des prévenus avec Fontaine était indispensable pour compléter les préliminaires de l'instruction. On consulte le médecin afin de savoir si l'état du malade lui permet de soutenir une si rude épreuve. Et sur sa réponse affirmative, Courte et Raoul sont amenés à l'hôpital, introduits dans la salle où est le boucher. Ils cherchent des yeux, leur victime. Fontaine a la tête enveloppée, sa figure est recouverte de linge. Il est méconnaissable, mais près de lui sont exposés les vêtements et la chemise qu'il portait lorsqu'il fut si cruellement assailli. « Ah, oh, pauvre Fontaine !» s'écrie Courte en tombant à genoux au pied du lit que décorent les sanglants trophées. « Pardonnez aux misérables qui vous ont mis dans cet état, puisque vous en êtes échappé. C'est une permission de Dieu. Il a voulu vous conserver pour que nous portions la peine de nos méfaits. Pardon, patron, pardon, pardon, répétait Courte en cachant son visage dans ses mains. Et pendant qu'il s'exprimait ainsi, Raoul, qui s'était également agenouillé, gardait le silence et paraissait plongé dans une affliction profonde. « Allons debout et regardez le malade en face !» leur dit le juge que j'accompagnais. Ils se levèrent. « Ôtez de ma vue ces assassins !» s'écria Fontaine. « Je ne suis que trop reconnu leur figure et au son de leur voix. » Cette reconnaissance et la vue des coupables étant plus que suffisant pour établir que Courte et Raoul avaient assassiné le boucher, mais j'étais en outre convaincu qu'ils avaient bon nombre d'autres crimes à se reprocher et que, pour les commettre, ils avaient dû être plus de deux. C'était là encore un secret qu'il m'importait de leur arracher. Je résolus de ne pas les quitter sans qu'ils me l'eussent révélé tout entier. Au retour de la confrontation, je fis servir dans la prison à souper pour les prévenus et pour moi. Le concierge me demanda s'il fallait mettre des couteaux sur la table. « Oui, oui, » lui répondis-je, « mettez des couteaux. » Mes deux convives mangèrent avec autant d'appétit que si j'eusse été les plus honnêtes gens du monde. Quand ils eurent une légère pointe de vin, je les amenai adroitement sur la pensée de leur crime. « Vous n'avez point le fond mauvais, » leur dis-je, « et je gagerai que vous avez été entraînés. C'est quelque scélérat qui vous a perdu. Pourquoi ne pas en convenir, puisque vous avez ressenti un mouvement de compassion et de repentir lorsque vous avez vu Fontaine. Il est démontré que vous voudriez, au prix de votre sang, n'avoir pas versé celui que vous avez répandu. Eh bien, si vous vous taisez sur vos complices, vous êtes responsable de tout le mal qu'ils feront. Plusieurs des personnes que vous avez attaquées ont déposé. Vous êtes au moins quatre dans votre expédition. Mais elles se sont trompées, répliqua Raoul. Parole d'honneur, monsieur Jules. Nous n'avons jamais été plus de trois. L'autre est un ancien lieutenant des douanes qui se nomme Paul Gérard. Il reste tout près de la frontière, dans un petit village entre La Capelle et Oran, au département de l'Aisne. Mais si vous voulez l'arrêter, je vous préviens que c'est un lapin qui n'a pas froid aux yeux. Oh non, dit Cour, il n'est pas facile à brider. Si vous ne reprenez pas toutes vos précautions, il vous donnera du fil à retordre. Oh, c'est un rude compère, reprit Raoul. Vous n'êtes pas manchot non plus, monsieur Jules, mais 10 comme vous ne ferez pas peur en tout. Ici, vous êtes averti. D'abord, si l'amant que vous le cherchez, il n'y a pas besoin de chez lui, il n'y a pas loin de chez lui en Belgique. Il filera. Et si vous le surprenez, il résistera. Ainsi, trouvez moyen de le prendre endormi. Ouais, il ne dort guère, observa Kurt. Je m'informai des habitudes de Pont Gérard et je fis donner son signalement. Dès que je lui obtenus tous les renseignements dont je pensais avoir besoin pour m'assurer de sa personne, songeant à fait contester les révélations que je venais d'entendre, je proposai aux deux prisonniers d'écrire sur le champ à celui des magistrats qui avaient caractère pour recevoir leurs aveux. Raoul mit la main à la plume, et lorsqu'il eut achevé, bien qu'il fût près d'une heure du matin, je posai moi-même la lettre au procureur du roi. Elle est à peu près conçue en ces termes. Monsieur, revenus à des sentiments plus conformes à notre position, et mettant à profit les conseils que vous nous avez donnés, nous sommes décidés à vous faire connaître tous les crimes dont nous sommes rendus coupables et vous signaler notre troisième complice. Nous vous prions en conséquence de vouloir bien venir près de nous afin de recevoir nos déclarations. Le magistrat s'empressa de se rendre à la prison. Et Kurt, ainsi que Raoul, répétèrent devant lui tout ce qu'il m'avait dit de Pont Gérard. Je vais maintenant à m'occuper de ce dernier, qu'il ne fallait pas lui laisser le temps d'apprendre la mésaventure de ses camarades. J'obtins de suite l'ordre d'aller l'arrêter.